Je voulais te laisser continuer là-dessus, justement, sur la présence américaine. On l'a bien compris, là-bas, le brevet est passé. Donc les Américains vont essayer enfin, les Américains, on s'entend, hein, certaines grosses entreprises américaines qui ont vite compris leurs bénéfices, vont essayer de faire passer cela en Europe. Et cela amène des joutes incroyables, du lobbying, des plaintes aussi pour harcèlement. On pourra en reparler ensemble. Bref, on est en train d'appuyer de toutes parts pour faire passer ce projet, même dans des dossiers beaucoup plus gros. On met ce petit dossier au fond et on le traite, on essaie de le traiter avec la pêche, avec d'autres. Et il y a des pays qui font de la résistance, notamment la Pologne et peut-être aussi l'Allemagne. Je te laisse commencer par ce que tu veux.
Effectivement, tout ce qu'on vient de raconter sur les brevets est complètement d'actualité aux États-Unis. La presse a relaté depuis pas mal de mois énormément de procès. Microsoft lui-même est mis en procès pour avoir utilisé dans son navigateur internet ce qu'on appelle des plugins, ces petites fenêtres qui vous permettent par exemple de suivre une vidéo ou d'écouter un son ou de voir une animation. Comme il y a un brevet qui protège ça et qui a été développé par une société qui ne développe pas de logiciel, qui fait juste que déposer des brevets. Eh bien, cette société a dit à Microsoft, vous faites ça dans votre navigateur Internet, maintenant vous nous devez de l'argent. Donc il y a pas mal de procès comme ça qui sont en cours aux États-Unis et qui ont défrayé la chronique. Et on risque de tomber dans le même cas de figure en Europe si un jour les brevets logiciels sont légaux en Europe. Donc en ce moment, on est dans le cadre d'une directive qui est en cours de discussion au niveau de l'Union européenne. Et ma foi, il y a énormément de rebondissements et des enjeux incroyables autour de cette directive. De l'avis de plusieurs parlementaires, on n'avait jamais vu autant de mobilisation et d'intérêt citoyen autour d'une directive européenne. Il y a énormément d'utilisateurs d'informatique, de programmeurs, de petites et moyennes entreprises qui ont bien vu quels étaient les dangers pour elles, qui se sont mobilisés, qui ont averti les parlementaires de ces dangers. C'est ce qui a conduit d'ailleurs le Parlement, comme je le disais, à adopter de très bons amendements limitant la brevetabilité et empêchant les brevets logiciels en septembre 2003. Alors, je vais peut-être revenir un peu sur l'historique de cette directive. Donc, on part en fait du droit qui régit les brevets en Europe, qui a été élaboré en 73 par la Convention de Munich et qui clairement disait les programmes d'ordinateur en tant que tels ne peuvent pas être brevetables, comme ne le sont pas les mathématiques, les dessins, toutes ces choses qui mettent en fait en jeu des principes intellectuels qui font partie de la connaissance commune de toute l'humanité et qui peuvent pas être monopolisés par quelques intérêts particuliers. Donc, jusqu'ici, les brevets sont interdits en Europe. Et puis, certains intérêts ont bien vu que ça les limitait, que cette interdiction les limitait. Ces intérêts, ben, on l'a évoqué avec Nicolas, ce sont les offices de brevets qui distribuent des brevets et qui doivent être rentables, donc qui ont tout intérêt à accepter tous les brevets et à voir la brevetabilité s'étendre à des sujets auxquels elle n'avait pas, qui ne la touchaient pas, comme les logiciels, comme les activités commerciales. Et ce qu'il faut voir, en fait, c'est que les logiciels sont un très bon moyen de faire breveter toute activité intellectuelle. De plus en plus, l'informatique s'occupe de beaucoup de choses, et en brevetant des logiciels, on peut arriver à breveter des méthodes intellectuelles. On peut penser par exemple à des méthodes éducatives. Lorsque l'on brevette un logiciel qui permet de faire un QCM, un questionnaire à choix multiples, c'est une méthode éducative que l'on monopolise. Et donc, tous ces intérêts qui auraient aimé voir les logiciels entrer dans le domaine du brevetable se sont mobilisés pour réformer le droit européen. Alors, ils ont fait un premier essai en 2000 pour carrément supprimer cette interdiction de brevetage des logiciels de la Convention sur le brevet européen. Fort heureusement, cette tentative a échoué grâce à une résistance publique qui a semblé assez inattendue. Et donc, il a fallu trouver d'autres moyens. Ça a été de passer par l'Union européenne et de proposer une directive. Alors, c'est la directive qui est actuellement en discussion. Et elle a été présentée de très belle manière. On a dit que c'était une directive qui visait à harmoniser les différentes législations nationales et à prévenir des dérives de l'Office des brevets qui, contre la loi, on l'a vu, a accepté des brevets logiciels. Donc c'était tout à fait ce que l'on demandait. Et tout allait bien. Seulement, en inspectant un peu le texte, on se rendait compte que le contenu du texte était complètement à l'encontre de ces bons objectifs et qu'il autorisait en fait bel et bien la revendication de brevets sur n'importe quel logiciel. Et même en regardant d'un peu plus loin, et ça c'est assez drôle, on a vu que le document, qui était un document Word présenté par la commission, avait été en fait rédigé par la BSA. La BSA, c'est la Business Software Alliance, qui est une coalition d'entreprises. Vous avez peut-être entendu certaines de ces publicités sur des radios publiques dénonçant le piratage dans les entreprises et appelant les utilisateurs de logiciels à les avertir lorsqu'ils utilisaient dans leur entreprise des logiciels piratés. Donc la BSA, c'est un regroupement d'entreprises, la plupart américaines, et il faut bien le dire, un peu contrôlées par Microsoft. Et c'est donc cette même BSA qui a rédigé le brouillon du projet de directive européenne. Alors, on peut se dire, tiens, qu'est-ce que les Américains viennent faire dans une directive qui concerne l'Europe ? Eh bien, en fait,
qu'est-ce qu'ils viennent faire ?
Eh ben, il faut savoir que dans les dizaines de milliers de brevets déposés à l'Office européen des brevets, en fait, il y a quelques miettes du gâteau qui sont détenues par des entreprises européennes. La grande majorité, les trois quarts des brevets, sont détenus par des sociétés états-uniennes ou japonaises. Donc si cette directive autorisant les brevets logiciels passait, en fait, ceux qui retiraient le plus grand bien de cela, ce ne seraient pas les sociétés européennes, même les grandes sociétés qui ont le moyen de déposer des brevets, ce seraient plutôt les détenteurs de ces brevets qui sont américains ou japonais. Alors, on peut continuer dans le chemin qu'a pris cette directive. Je l'avais évoqué tout à l'heure, le Parlement européen a très bien travaillé dessus. Pendant plus d'un an, il y a plusieurs comités qui ont été chargés d'émettre des avis et qui ont littéralement démoli la proposition de la commission en disant qu'elle autorisait le brevetage des logiciels, que ça conduisait à un monopole sur en fait les idées et les méthodes intellectuelles et qu'il fallait absolument amender ce texte en proposant des limites très claires. Le comité économique social européen, le comité des régions, une commission du Parlement à l'industrie, une commission du Parlement à la culture qui était en 2003 présidée par Michel Rocard qui est très présent sur le sujet et qu'on aura l'occasion d'entendre une de ses interventions à la fin de l'émission. Donc toutes ces instances consultatives ont averti du danger du texte de la Commission, ce qui a conduit le Parlement européen, finalement, à voter en séance plénière le 24 septembre 2003 des amendements approuvant ces avis et posant des limites claires interdisant les brevets logiciels. Ensuite, c'était donc au tour du Conseil des ministres de l'Union européenne d'exprimer son avis. Et le texte modifié par le Parlement leur a été envoyé, avec déjà une note de la Commission qui stipulait quels amendements leur semblaient acceptables. Et alors, seuls les amendements approuvés en fait par des gens qui étaient assez proches du lobby brevé, qui avaient adopté des amendements que je qualifierais de cosmétiques, qui n'étaient pas vraiment essentiels, ont été jugés acceptables. Tous les amendements essentiels qui définissaient des limites claires ont été jugés carrément inacceptables. et on se retrouve avec un texte en fait qui est très vague, alors qu'on avait un objectif de clarifier le droit. On se retrouve avec un texte qui dit, eh bien, vous avez le droit de breveter un logiciel à partir du moment où il entre, il a fait intervenir une contribution technique. Et qu'est-ce qu'une contribution technique? Ben, c'est une contribution dans un domaine technique. Alors le Parlement européen, lui, avait très bien défini ça. Il avait dit, ce qui est du domaine technique, c'est il a fait référence aux forces contrôlables de la nature. C'est un peu du jargon, mais tout ça pour dire qu'on a le droit de breveter les choses qui sont physiques, mais pas les idées pures. Et le Conseil, donc, a complètement supprimé ça et s'est retrouvé avec une définition qui se renvoie à elle-même et qui ne veut plus rien dire et qui, ma foi, laisse passer tout et n'importe quoi. Alors ceci, ma foi, a été approuvé, on l'avait dit avec Nicolas, par le Conseil dans un accord politique en mai dernier, le 18 mai 2004, et dans des conditions qui sont assez surprenantes. En fait, à l'époque, c'était l'Irlande qui présidait le Conseil des ministres de l'Union européenne. Et alors, il faut savoir que l'Irlande est un peu un paradis fiscal pour tous les brevets logiciels, qu'il y a très peu de taxes sur les gains, en fait, rapportés par ces brevets. Et que bon nombre de sociétés, Microsoft la première, ma foi, délocalise toute sa propriété intellectuelle, c'est-à-dire dépose ses brevets en Irlande et les fait valoir partout ailleurs. On peut d'ailleurs remarquer que, à l'époque, le site de la présidence irlandaise était sponsorisé par Microsoft. Cela donne peut-être une idée des pressions qu'il y avait sur le Conseil des ministres pour adopter cela. Lors de cette séance où ça a été adopté, il y a d'ailleurs eu quelques petits scandales. Le Danemark opposait certaines réticences, et puis la présidente irlandaise lui a coupé un peu la parole en lui disant « Alors, quelle est votre position ?» Alors, le représentant danois disait « On ne sait pas bien. Il y a eu quelques pays qui ont émis des objections. » Alors la présidence lui a coupé la parole en lui disant « Oui, on est là pour décider. Alors, est-ce que vous êtes au moins à 80% d'accord avec ce texte ?» Et sans que le Danemark approuve vraiment, a compté la voix danoise comme approuvant ce texte. Et puis on s'est retrouvé avec une très petite majorité approuvant ce texte et on a clos le débat.
On a les minutes de ce débat.
Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Vous pouvez aller voir sur ffi.fr. Et il y a le déroulement de cette séance qui est présenté avec tous les petits accrochages. Il y en a d'autres très intéressants. On voit que le ministre néerlandais, alors que son parlement quelques jours avant lui avait dit de ne pas approuver ce texte en l'état, l'a finalement approuvé parce que il a dit il y a une faute, une petite erreur, un bug dans le traitement de texte qui m'a fait parvenir l'avis de mon parlement et j'ai compris le contraire de ce qui avait été marqué. Il y a une erreur
de fax aussi, ça c'est.
Il y a une erreur de fax du côté de la Hongrie, le fax n'est pas passé. Enfin, plein de petites choses comme ça, et finalement, ça conduit pas mal de parlements nationaux à s'énerver un peu qu'on ne prenne pas en compte leur avis, qu'il y ait, ma foi, un véritable déni démocratique. Et le parlement néerlandais, toujours lui, s'est prononcé très clairement en juillet 2004 pour dire à son ministre « Nous ne voulons absolument pas que vous entériniez cet accord. Si jamais cela doit être rediscuté, il faut absolument que vous opposiez à cet accord. »
Et nous allons continuer cette histoire un peu après. On va laisser les auditeurs respirer. C'est assez touffu. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Alexandre avec vous. Notre invité aujourd'hui est Gibus. Et je vous rappelle que c'est le FFII. .fr, ff2i si vous préférez, .fr pour, en même temps que vous écoutez cette émission, prendre des informations sur Internet. Internet qui est le thème principal évidemment de cette journée et surtout la liberté de travailler pardon, sur son ordinateur, parce que bientôt nous serons tous obligés de travailler sur ordinateur, qui que nous soyons, avec internet ou non, mais en tout cas sur l'ordinateur, et c'est bien là que se joue la liberté.